7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Comment résoudre plus facilement un problème de maths? Eh bien, en commençant par comprendre l'énoncé. L'enseignant Gérard Sansfaute va nous apprendre comment associer à l'énoncé, par exemple, un schéma ou un dessin, ce qui va faciliter le raisonnement mathématique et rendra en principe la solution bien plus facile à trouver. La comédienne Héloïse Auriat nous racontera Hassani, le garçon qui disait toujours « attends », un conte de Nasré Mossadeh, publié dans la collection Contes des Quatre Vents aux éditions L'Harmattan. Et puis nous retrouverons la chronique de la chef Anto Cocagne. Anto nous parlera de l'oseille de Guinée et nous donnera sa recette de verrine de tapioca au bissap. L'émission est comme chaque jour réalisée en direct avec une équipe en télétravail, Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac et en studio Nicolas Benita et moi-même. Nous attendons vos réactions, vos questions, vos messages audio ou écrits sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Et les enfants, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à emprunter le portable de vos parents, on vous attend.
7 milliards de voisins,
on est tout proches,
on est ensemble,
ça reste entre nous.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Bonjour les voisins, voilà la fin de mon histoire. La chèvre rencontre un méchant loup. Et comme elle avait pris des cours de magie avec Mandrake, elle est disparue dans l'air et le loup est tombé dans la pomme.
Bonjour Monsieur Gérard. Bonjour Chantal. Pour mon histoire, j'ai choisi la chèvre au karatéka. Le très vilain grand méchant loup a attaqué la chèvre. Comme elle fait du karaté, elle lui met une raclée. Et son ami l'oiseau bleu vient l'aider en lui bombardant. Et le loup s'enfuit. Ils sont partis faire le tour du monde à deux. Ils ont passé aussi par mon pays. Lucas Kinshasa, j'ai 7 ans.
Bonjour 7 milliards de voisins. Je m'appelle Bello Nandia. Voici ma version des faits choisis de la chèvre de Monsieur Seguin. La chèvre rencontre un méchant loup. Ce loup était enfui de rage. Ses griffes étaient longues. Il était en colère. La chèvre ne se laissait pas impressionner, car elle avait pris des cours de karaté avec son ami le kangourou. Elle réussit à lui mettre une raclée et elle le laisse évanoui sur le sol. Ensuite, elle part faire le tour du monde. Elle partit en Tanzanie, en Autriche, à Paris et à New York. Merci.
Bonjour, je m'appelle Solange. J'ai 7 ans et demi, j'habite au Sénégal. Je vais vous dire ma rédaction de la chèvre de Monsieur Seguin. La chèvre de Monsieur Seguin voulait être libre. Une nuit, elle s'est échappée. Elle en avait assez de l'enclos de Monsieur Seguin. Elle veut voir le monde. Elle a marché longtemps. Tout à coup, elle a vu un loup qui était de couleur marron, les yeux rouges et de grandes dents pointues. Elle le séduit en mettant une fleur derrière l'oreille et un collier. Et le loup la trouve très belle. Ils se marient et ils ont eu beaucoup d'enfants. Merci beaucoup. Bon après-midi.
Bonjour Gérard Sansfaute.
Oui, bonjour. Mais ça fait plaisir d'entendre ces histoires et ces enfants qui respectent bien les consignes et qui racontent finalement leur histoire. Ça me fait vraiment très plaisir.
Oui, parce qu'ils ont bien fait travailler leur imagination hein, en inventant de nouvelles suites à la chèvre de Monsieur Seguin. Est-ce que vous vous attendiez à ces suites originales?
Ah ben, je sais que les enfants ont toujours écoutent bien, arrivent à écrire après, mais ça fait à chaque fois un grand plaisir de voir comme ils s'investissent et on entend à leur voix qu'ils sont contents de présenter le texte qui vient d'eux. Et c'est ça qui fait vraiment très plaisir.
Alors aujourd'hui, Gérard, on va faire des maths et nous avons reçu plusieurs messages encore pour vous. Providentiel de Cotonou, qui a 11 ans, nous écrit « Monsieur Gérard défonce les obstacles en maths. Avec lui, rien n'est impossible. Même les impertinentes abeilles le respectent. » Négor de Yaoundé « Avant les cours de Gérard, je détestais les mathématiques. » Mais donc ça, c'était avant. Abdoul de Cancan, ah, les leçons de maths pour Gérard sans faute. Même si je suis lycéen, je suis toujours l'école à la radio avec Gérard qui ne fait jamais de faute. Madame Sarah avec sa voix magnifique. Laurence, excellente prof. Madame Marie-Christine, super. Madame Emmanuel, Madame Chantal et ma conteuse préférée, Héloïse, je vous aime. Et puis Saïdou à Nouakchott nous écrit, avant, je n'aimais pas les maths parce que quand je faisait une erreur, ça m'agaçait. Avec Gérard, ça commence à m'attirer.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, il faut plusieurs feuilles de papier et un crayon ou un stylo. Et votre objectif, Gérard, ça va être d'aider les enfants à s'approprier ce qu'on appelle le raisonnement mathématique en associant un schéma à l'énoncé d'un problème. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait. Oui. Et cette émission d'aujourd'hui, c'est parce que souvent, on entend des personnes qui n'hésitent pas à dire qu'elles sont nulles en mathématiques, qu'elles détestent les mathématiques. C'est même presque parfois à la mode. Alors, ces personnes, elles racontent parfois même des souvenirs scolaires un peu douloureux. Alors, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est faire entrevoir l'esprit de liberté dans les mathématiques. On avait parlé de liberté avec la chèvre. Il y a un esprit de liberté quand on cherche un problème. Parce que le chemin du raisonnement en mathématiques, c'est un chemin personnel. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait que je renverse les obstacles. Non, j'essaye d'aider les enfants à renverser les obstacles. C'est vous qui renversez les obstacles. Alors, je vais aujourd'hui juste essayer d'éclairer votre chemin. Mais ça sera votre chemin que vous continuerez. Vous restez libre de votre chemin. Résoudre des problèmes, c'est un chemin de liberté. C'est pas un modèle qu'on applique sans réfléchir. Alors, nous, les enseignants, on essaye d'éclairer de notre mieux votre chemin et on vous regarde avancer.
Alors voilà. Gérard, on va d'abord s'adresser aux enfants de 6 ans et plus avec un petit problème.
Voilà. Oui, je vais commencer par un problème pour les plus jeunes, environ à partir de 6 ans, parce que c'est quand on est très jeune qu'on apprend à oser et à aimer se lancer dans une recherche pour résoudre un problème de mathématiques. Après, si on est bloqué, il faut arriver à débloquer, mais il faut apprendre à oser quand on est plus jeune. Alors, voilà l'énoncé. Dans une boîte, il y a 10 crayons. La moitié de la boîte est composée de crayons verts. La maîtresse commande 2 boîtes de crayons. Alors la question, combien de crayons verts la maîtresse a-t-elle commandé ?
Donc on va peut-être répéter à nouveau l'énoncé pour que les enfants aient bien le temps de noter. Allez-y Gérard.
Oui, alors dans une boîte, il y a 10 crayons. La moitié de la boîte est composée de crayons verts. La maîtresse commande 2 boîtes de crayons. Combien de crayons verts la maîtresse a-t-elle commandé ? Alors, si les grands, ils l'ont peut-être résolu très vite, ce n'est pas le cas pour les plus jeunes.
Donc on va leur laisser un petit peu de temps pour réfléchir donc à la question « Combien de crayons verts la maîtresse a-t-elle commandé ?»
Voilà.
Alors Gérard, on va dessiner les 2 boîtes peut-être ?
Voilà, au début on se demande de quoi parle ce problème et on nous dit dans l'énoncé que on va d'abord dessiner une boîte. Parce que
dans la première boîte,
voilà. Au début de l'énoncé, on nous parle d'une boîte de 10 crayons.
Donc
vous
dessine.
Avez commencé par dessiner une boîte de 10 crayons. Alors, pour le moment, une seule boîte. Dans une boîte, il y a 10 crayons. Ensuite, dans l'énoncé, on nous dit qu'il y a la moitié de la boîte avec des crayons verts. Donc, l'autre moitié, c'est avec d'autres crayons, dont on ne connaît pas la couleur.
Donc, 5 crayons verts et les autres, on ne sait pas.
Alors, la moitié de la boîte. Alors, il faut les dessiner. Et c'est justement la moitié, pour les plus jeunes, ce n'est pas toujours évident. Pour nous, on a envie de donner la réponse, on est grand. Comme là, vous venez de dire là, un peu la réponse, mais pour les plus jeunes, ce n'est pas évident. On a 10 crayons et la moitié sont des crayons verts. Donc là, pour l'instant, vous avez le schéma devant vous qui va vous aider à comprendre. Mais ce schéma, vous l'avez tous fait un peu différent. Là, on vous a laissé du temps pour le faire. Vous l'avez tous fait un peu différent. Et c'est en comparant vos façons de faire ce schéma que quand on fait un moment de correction, on appelle ça, nous, plus exactement, une mise en commun, que les élèves peuvent décider de changer une autre fois leur façon de faire le schéma. Et parce qu'il y en a certains, au début, ils prennent le temps de dessiner une belle boîte avec des beaux crayons et ils se rendront compte que ça leur fait perdre du temps et que ce n'est pas utile pour résoudre le problème.
Donc on peut faire un rectangle avec 10 bâtons à l'intérieur, par exemple.
Voilà, un rectangle, des bâtons, ce n'est pas un cours de dessin, on le fait rapidement. Et puis, certains se rendront compte qu'ils n'avaient pas compris exactement le sens de la moitié. Pour les plus jeunes, ce n'est pas évident. Que la moitié, il faut partager en deux quantités égales.
Ils peuvent penser à la moitié d'une pomme, par exemple. On prend une pomme, la moitié, on coupe la pomme en deux.
Voilà, c'est deux parties égales. Donc cette notion, elle se précise en faisant le problème. Et c'est la mise en commun de ce que fait chaque élève quand on est en classe. C'est là qu'on voit, on précise cette notion de moitié. Et c'est là qu'on voit qu'on met 5 crayons verts et on a mis donc, comme vous disiez, des 5 traits verts. Alors comme on n'a pas dit de crayon d'avoir la couleur verte, vous pouvez en dessous du bâton mettre un V pour indiquer qu'il est de couleur verte.
Ok, donc, on a,
autres.
Voilà, donc voilà. On a une première boîte donc avec nos 10 crayons, 5 verts et 5 qui ne sont pas verts. Et on nous dit, la maîtresse commande 2 boîtes de crayons. Donc,
c'est ça.
On dessine une deuxième boîte.
Alors, comme il faut trouver, on dessine une deuxième boîte. Alors, allez-y, vous la dessinez si vous ne l'avez pas dessinée. Elle va être comme la première. Donc, pensez à mettre les crayons verts et les autres. Et si on compte les crayons verts des deux boîtes qu'on a maintenant dessinées, on peut compter combien il y a de crayons verts. 1, 2, 3, 4 crayons dans la première boîte.
Non, 5.
5 crayons. Ah bah oui, la moitié, on avait bien dit. Moi, j'avais passé directement sur 2 crayons. Alors, 5 crayons dans la première boîte, et je continue dans la deuxième boîte en essayant de ne pas en oublier. 6, 7, 8, 9, 10 crayons. Il y a 10 crayons verts dans les deux boîtes commandées par la maîtresse.
Voilà,
c'est
donc
la
c'était,
bonne réponse.
C'était la solution. 10 crayons verts. On va continuer, Gérard, avec un problème pour les 8 ans et plus. Hein.
Oui, mais avant, je voulais quand même dire, avant de passer au problème des 8 ans, de dire que quand on fait la mise en commun, quand tous les élèves expliquent comment ils ont fait, certains vont dire que grâce au schéma, ils ont pu trouver la moitié de 10, c'est 5 en faisant 5 plus 5 égale 10 en faisant une addition. D'autres ont fait 5 multiplié par 2 égale 10, ils ont fait une multiplication. Et d'autres encore, ils ont divisé 10 par 2, ils ont divisé 10 en deux parties égales, et ça fait 5. Et là, c'est une division. Donc ce problème qui était tout simple, il pouvait se faire de différentes façons. Et quand on échange entre les élèves, ils voient que les autres ont fait d'une autre façon. Et peut-être qu'une autre fois, ils changeront leur façon de faire.
Gérard, on va un petit peu accélérer parce que le temps passe très vite. Donc on va continuer avec un problème pour les 8 ans et plus. Hein. Je vous laisse lire l'énoncé. Hein.
Voilà. Alors là, il est un peu plus compliqué. Et on le fera avec un schéma également. Alors, d'un étage à l'autre, 4 amies habitent dans le même immeuble, chacune à un étage différent. Bintou habite au rez-de-chaussée, Rokia au premier étage, Yasmine habite au deuxième étage, puis il y a Oumu, il y a toujours le même nombre de marches entre deux étages. Bintou se rend d'abord chez Yasmine en montant 30 marches, puis elle reprend l'escalier pour aller chez Oumu. Combien de marches Bintou doit-elle monter pour aller de l'étage de Yasmine à celui de Oumu?
Alors, je vais répéter, répéter l'énoncé. Hein. Donc, 4 amies habitent dans le même immeuble, chacune à un étage. Bintou habite au rez-de-chaussée. Rokia habite au premier étage. Yasmine habite au deuxième étage. Ensuite, il y a Oumu. Et il faut souligner qu'il y a toujours le même nombre de marches entre deux étages. Or, Bintou se rend d'abord chez Yasmine en montant 30 marches. Puis, elle reprend l'escalier pour aller chez Oumu. Combien de marches Bintou doit-elle monter pour aller de l'étage de Yasmine à celui de Oumu? Alors, il y a beaucoup de choses dans cet énoncé, Gérard. Hein.
Ah ben oui, on peut se dire aïe aïe aïe, et on se dit on est bloqué, on se dit qu'on est nul en maths, qu'on n'a rien compris, qu'il y a trop de choses, c'est pas fait pour moi. Alors que là, comme tout à l'heure, vous allez voir qu'un schéma va vous aider à réfléchir et à avancer vers la solution du problème.
Donc on va peut-être commencer parce qu'on n'a plus tellement de temps. Donc on va donc dessiner les 4 amies, chacune à son étage.
Voilà, vous dessinez 4 carrés, les uns au-dessus des autres. Alors assez grand sur votre feuille, chaque carré sera l'appartement d'une amie. Alors, le carré tout en bas, c'est le rez-de-chaussée. Vous écrivez donc dedans RDC, les initiales de rez-de-chaussée à l'intérieur, et vous écrivez aussi Bintou, parce que c'est là qu'elle habite. Donc là, on a rempli le premier carré tout en bas. Juste au-dessus, le carré au-dessus, c'est le premier étage. Vous écrivez donc premier étage à l'intérieur. Et vous écrivez aussi Rokia. C'est là qu'elle habite. Donc j'espère que vous avez bien écrit ça. Et maintenant, le troisième carré au-dessus, c'est le deuxième étage. Vous écrivez donc à l'intérieur deuxième étage. Vous écrivez aussi Yasmine, parce que c'est là qu'elle habite. Et enfin, le dernier carré au-dessus, c'est le troisième étage. Donc vous écrivez deuxième étage à l'intérieur et vous écrivez aussi Oumu, parce que c'est là qu'elle habite. Donc vous avez votre immeuble avec les 4 étages l'un au-dessus de l'autre. Vous avez votre schéma qui est bien commencé et qui va vous aider à comprendre. Alors maintenant, dessinez à votre manière, mais rapidement, un escalier qui va de chez Bintou, qui est au rez-de-chaussée, à chez Rokia, qui est au premier étage.
Alors, on peut faire une petite flèche hein, sur le côté.
Voilà, ceux qui ne veulent pas dessiner un escalier peuvent faire une petite flèche entre chez Bintou au rez-de-chaussée jusque chez Rokia au premier étage sur le côté. Maintenant, dessinez aussi à votre manière, mais rapidement encore, un escalier qui va de chez Rokia, qui est au premier étage, à chez Jasmine, qui est au deuxième étage. Moi, c'est bien de faire aussi une petite flèche sur le côté. Et enfin, dessinez à votre manière, mais rapidement, un escalier qui va de chez Yasmine, qui est au deuxième étage, à chez Oumu, qui est au troisième étage.
Donc là encore, on fait une petite flèche sur le côté.
Alors regardez bien maintenant votre schéma. Peut-être que c'est plus clair pour vous, l'énoncé du problème. Parce que vous remarquerez qu'il y a trois escaliers sur le côté. Pourtant, il y a quatre amis. Mais il n'y a que trois escaliers. Donc ça, ce n'est pas évident si on ne fait pas le schéma. Et vous remarquez, donc, qu'il y a quatre amis, mais c'est marqué que troisième étage pour le plus haut, parce que le rez-de-chaussée, c'est tout en bas. Donc là, on comprend mieux. Alors, je vais relire l'énoncé qui va certainement vous
s'éclairer, voilà, du coup,
un peu plus clair.
En ayant le schéma sous les yeux.
Voilà, maintenant que vous avez le schéma, alors quatre amis habitent dans le même immeuble, il y a le nom des quatre amis, chacune a un étage. Sur notre schéma, on a mis chaque ami à un étage. Bintou habite au rez-de-chaussée, on le voit. Rokia habite au premier étage, on le voit. Yasmine habite au deuxième étage, on le voit. Puis il y a Oumu, on voit, tout en haut. Et il y a toujours le même nombre de marches entre deux étages, c'est important, mais ça n'apparaît pas. Donc il y a les trois escaliers, mais on garde bien en tête qu'il y a le même nombre de marches. Alors, maintenant, Bintou se rend d'abord chez Yasmine en montant 30 marches. Alors, si on regarde notre schéma, on voit que ces 30 marches, c'est pour deux escaliers sur le côté.
Voilà, parce que Bintou habite au rez-de-chaussée, donc elle va chez Yasmine au deuxième étage. Donc, elle monte d'abord 15 marches pour se rendre au premier étage et elle continue encore 15 marches pour arriver au deuxième étage.
Ben pour l'instant, on sait que c'est 30 marches pour le total des deux escaliers. Et on demande combien Bintou doit-elle monter de marches pour aller de l'étage de Yasmine à celui d'Oumu. Alors, on voit sur le schéma qu'il n'y a qu'un seul escalier, alors que les 30 marches, c'était pour deux escaliers. Donc, ce qu'on nous demande, c'est pour aller de chez Yasmine à chez Oumu, combien y a-t-il de marches par rapport aux 30 marches qui sont de deux escaliers? C'est la moitié de 30. Et pour trouver cette moitié de 30, on peut faire de plusieurs façons. Soit, pour trouver la moitié de 30, ben ça peut paraître évident pour ceux qui sont très forts en calcul mental, mais il y en a. Pour trouver la moitié de 30, c'est pas évident. Ils vont dessiner 30 bâtons et les séparer en deux quantités égales pour trouver la moitié. Et ceux qui vont plus vite, ils peuvent faire l'addition 15 plus 15 égale 30. Ça, c'est une addition. Mais comme tout à l'heure, on peut le résoudre en faisant une autre opération et se dire, pour faire 30, c'est deux fois combien? C'est 2 fois 15 pour trouver 30. Là, on a fait une multiplication à trous. Et il y en a d'autres qui ont fait carrément 30 divisé par 2. Et ils ont trouvé 15. Là, ils ont fait une division. Donc là, ils ont trouvé la même réponse. Bintou doit monter 15 marches pour aller de l'étage de Yasmine à l'étage de Oumu. Mais quand chacun... C'est ce que je disais au début. Chacun a suivi son chemin en faisant le schéma, peut-être une addition, peut-être une multiplication à trous, là, peut-être une division. Mais l'essentiel, ça a été de comprendre le problème et de choisir le chemin qui convenait le mieux.
Et on, voilà, et on voit bien à quel point dessiner un schéma éclaircit l'énoncé du problème qui, a priori, peut paraître compliqué. Gérard, pour les plus grands à présent, on va poser un autre problème qui est un peu semblable au précédent, mais en plus compliqué. On n'aura pas le temps de le résoudre ensemble, mais on va vous écouter énoncer le problème, Gérard.
Alors, je le lis, il ressemble au précédent. 6 amis habitent dans le même immeuble. Donc c'est plus 4, hein, c'est 6 maintenant. Chacune a un étage. Bintou habite au rez-de-chaussée. Rokia habite au premier étage. Yasmine habite au deuxième étage. Puis, il y a Oumou, Zoé et enfin Jeanne qui habitent au cinquième étage. Il y a toujours le même nombre de marches entre deux étages. Alors, Yasmine se rend d'abord chez Bintou. Mais comme elle n'est pas là, elle remonte chez Rokia. Elle a emprunté 51 marches. Puis, accompagnée de Rokia, elle reprend l'escalier pour aller chez Jeanne. Combien de marches Yasmine et Rokia doivent-elles monter pour aller de l'étage de Rokia à celui de Jeanne? Alors, ça ressemble, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si on a le temps de le relire.
Ben on va le, oui, on va le, je vais le relire rapidement. En fait, les enfants peuvent garder le même schéma que tout à l'heure en ajoutant des étages supplémentaires, hein, puisque
et un chemin différent.
Voilà. Donc cette fois, donc 6 amis habitent dans le même immeuble, donc chacune a un étage. Bintou habite au rez-de-chaussée, comme tout à l'heure. Rokia habite au premier étage, comme tout à l'heure. Yasmine habite au deuxième étage, comme tout à l'heure. Puis, il y a Oumou, donc au troisième étage. Puis, Zoé, donc au quatrième étage. Et enfin, Jeanne, qui habite au cinquième étage. Donc, il y a toujours le même nombre de marches entre deux étages. Et maintenant, faites bien attention. Donc, Yasmine se rend d'abord chez Bintou. Mais comme elle n'est pas là, elle remonte chez Rokia et elle a emprunté 51 marches. Puis, accompagnée de Rokia, elle reprend l'escalier pour aller chez Jeanne. Et la question est, combien de marches Yasmine et Rokia doivent-elles monter pour aller de l'étage de Rokia à celui de Jeanne? Voilà, Gérard, on n'a pas le temps de faire le petit chemin. On laisse les enfants plancher tout seuls et nous envoyer la solution qu'ils ont trouvée. Ou alors, on donne la solution et on les laisse faire le chemin. Donc, la solution, c'est, Gérard, Yasmine et Rokia doivent monter.
Alors, à la fin, il faut, on devrait arriver à 68. Alors,
voilà, 68 marches. Non, non, on n'a plus le temps, Gérard. Donc, Yasmine et Rokia doivent monter 68 marches pour aller de l'étage de Rokia à celui de Jeanne. Et on laisse les enfants faire le chemin pour expliquer comment ils en sont arrivés à trouver la solution 68 marches. Merci beaucoup, Gérard, pour cette leçon de mathématiques très éclairante, entre guillemets. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée, au revoir.
J'étais un enfant de la balle qui collectionnait les coups. Un mini-gendre idéal, mèche au vent et vent en poupe. À mon cou pendait une croix. J'étais un tendre, un joyeux, adolescent, amoureux. J'étais le jour, pas la nuit, dans le regard des amis. Qu'il est proche et loin ce temps-là. Retour alors, Brigitte. Au champ. J'étais un vingtenaire douteux, un tantinet prétentieux. J'en abusais de mes charmes, j'en ai fait couler des larmes. Robe blanche et serment déchiré. J'étais un type en colère, une âme coincée en enfer. Navré de n'être en ce bas monde qu'une onde parmi les ondes. Meurtri dans la meute enragée. Retour à l'origine, au champ de mes racines. Retour à l'origine, au champ de mes racines.
À l'origine, Cyril Mokayesh, extrait de son dernier album Paris-Beyrouth. Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. C'est maintenant l'heure de la récré.
Je m'appelle Kinsa. Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
Hassani, le garçon qui disait toujours « attends ». Un conte de Nasreh Mossadegh. Il était une fois une grand-mère qu'on appelait Bibi Golriz. Elle vivait dans une ferme avec son petit-fils Hassani. Dans leur ferme, il y avait une vache nommée Hanona Anna, des poules et un coq. Chaque fois que Bibi Golriz demandait quelque chose à Hassani, il lui répondait « attends !» Un matin, elle lui dit « Je vais traire la vache. Pendant ce temps, va donner à manger aux poules et aux coqs et ramasse les œufs pour aller les vendre à l'épicier Majdi Hassan. » Il répondit en bâillant
« Attends !»
Quand Bibi finit de traire Hanonana, elle vit Hassani en train de jouer et lui demanda « Hassani, as-tu donné à manger aux poules et aux coqs ?» Il répondit « Attends, j'y vais !» Elle lui dit alors « Dépêche-toi ! Moi, je vais faire bouillir du lait pour les yaourts, puis on ira ensemble au champ couper le blé. » Bibi fit ses yaourts, puis, quittant la cuisine, elle vit encore Hassani en train de jouer. Elle cria « Hassani, petit diablotin malin et coquin, as-tu donné à manger aux poules et aux coqs ? As-tu ramassé les œufs pour les porter à l'épicier Majdi Hassan ?» Il répondit « Attends, j'y vais !» Elle prit la faucille et avant de partir vers les champs pour couper le blé, elle dit à Hassani « Hassani, petit diablotin malin et coquin, avant de me rejoindre pour moissonner le blé, tu apporteras aussi à manger à Hanon Anna. Et quand nous aurons fini, nous passerons voir ton oncle. » Il répondit « Attends, j'arrive !» Hassani se dit que le temps que Bibi Golriz arrive au champ, il pouvait encore jouer un peu. Mais le temps passa et le soleil commença à se coucher. Il se rappela alors qu'il n'avait encore rien fait. Il courut vers le poulailler pour donner à manger aux poules, mais malheureusement, elles dormaient déjà couvant leurs œufs. Il souleva délicatement la première poule pour ramasser son œuf, mais celle-ci se réveilla et cria. Le coq, mécontent qu'Hassani dérange ses poules, poussa un grand cocorico et poursuivit Hassani dans le poulailler. La vache se réveilla et meugla. Hassani prit alors la fuite avec son œuf et courut en vitesse chez l'épicier Majdi Hassan, mais le magasin était déjà fermé. Il repartit dans l'autre sens, en direction des champs, mais ne trouva pas sa grand-mère. Il pensa qu'elle était partie chez l'oncle. Il courut pour s'y rendre, mais au bout d'un moment, fatigué, il s'assit au pied d'un arbre pour se reposer. Soudain, une noix tomba sur sa tête. Il la ramassa, la cassa avec ses dents et la dégusta. Puis, une deuxième, une troisième, une quatrième tombèrent de l'arbre. Il leva la tête et aperçut un corbeau qui faisait tomber les noix.
« Attention, tu me fais mal! Mais merci pour les noix, elles sont très bonnes. J'ai bien mangé !»
Le corbeau descendit de sa branche, se posa près de lui et lui dit « Je te conseille maintenant de rentrer chez toi. La nuit tombe et bientôt il y aura des loups affamés qui vont faire un festin. Pas de noix, mais de toi. » Hassani lui répondit
« Il faut que j'aille chez mon oncle retrouver ma grand-mère. »
Le corbeau reprit « Il est trop tard. Si tu prends ce chemin, tu seras dévoré par les loups. » Il répondit
« Laisse-moi tranquille. Je suis grand et je cours vite, tu sais. »
Le corbeau lui dit « Hassani, petit diablotin malin et coquin, maintenant que je te sais en danger, je ne peux te laisser partir tout seul. Je vais t'accompagner. » Hassani, sûr de lui, prit alors le chemin de chez son oncle, mais la nuit tombant, il se perdit. Soudain, il entendit le hurlement d'un loup au loin. Il se mit alors à courir à travers la nuit noire, mais trébucha. Sa tête heurta une pierre et il s'évanouit. Quand il ouvrit les yeux, il était entouré par Bibi et son oncle.
« Dieu soit loué, il ouvre les yeux !» dit Bibi.
« Les loups, où sont-ils ?» demanda Hassani paniqué.
Sa grand-mère le rassura.
« Ne t'inquiète pas, le corbeau est venu nous chercher chez ton oncle. Tu es maintenant à la maison dans ta chambre. Tout va bien !»
Hassani répondit timidement.
« Pardon !» Bibi, j'ai trop attendu et je n'ai pas vu la nuit arriver. J'ai bien compris la leçon.
Depuis ce jour, Hassani ne dit plus à temps, car il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.
Hassani, le garçon qui disait toujours « Attends », un conte de Nasreh Mossadegh, lu par la comédienne Héloïse Oria et publié dans la collection « Contes des quatre vents » aux éditions L'Armatan. Hier, Héloïse nous a lu le conte « Petit Jean » et vous avez été nombreux à réagir. Moussa de Dakar, j'ai bien écouté Petit Jean, il est très intelligent après sa dernière conversation avec Dieu, car avec un seul vœu, il a réglé tous ses problèmes, sa mère, l'enfant et la richesse, j'aime Petit Jean. Mohamed de Sarre, c'était très cool l'histoire de Petit Jean. Malgré sa situation difficile, il a finalement trouvé une bonne manière de demander les trois choses qu'il voulait, la vision de sa mère, la richesse et les enfants, alors qu'il ne devait qu'en demander une, c'était génial. Couquel de Pointe-Noire, j'ai beaucoup aimé ce conte de Petit Jean et la leçon que j'ai tirée, c'est que l'homme n'est jamais satisfait. Un gros coucou à la très talentueuse Héloïse. Alors attention les enfants, nous organisons, et c'est juste pour vous, un concours de dessin sur WhatsApp. Les gagnants seront tirés au sort dimanche soir et ils recevront un conte. Alors vite à vos crayons et à vos pinceaux.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Chef Antococagne, bonjour.
Oui, bonjour Chantal, bonjour à tous les enfants qui nous écoutent, mais aussi aux parents.
Alors on est ravis de vous retrouver pour évoquer aujourd'hui l'oseille de Guinée, une plante qui permet de fabriquer une boisson très réputée sur le continent africain.
Exactement. L'oseille de Guinée, dont le nom scientifique est Hibiscus abdarifa, est une plante très consommée et qui se cultive dans les régions chaudes d'Afrique. Il existe plus de 500 espèces différentes d'hibiscus, la plupart cultivées comme plantes ornementales pour leurs fleurs colorées. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui est l'Hibiscus abdarifa, cet arbuste qui pousse en zone tropicale, notamment en Guinée, d'où il est originaire, et ensuite qui s'est propagé dans le reste de l'Afrique.
Alors, est-ce que cet arbuste est compliqué à cultiver?
La culture de l'osée de Guinée exige une exposition très ensoleillée. Il ne faut surtout pas des températures inférieures à 0 degré Celsius parce que c'est une plante qui adore la chaleur. Il s'agit d'une plante qui, à l'âge adulte, peut atteindre une hauteur de 2 à 4 mètres selon ses conditions de vie. L'hibiscus sabdarifa ne doit pas être confondu avec les autres nombreuses espèces d'hibiscus parce que c'est la seule espèce de cette famille de plantes à posséder des propriétés à la fois décoratives, culinaires et médicinales. Cet hibiscus a la particularité d'avoir un calice qui devient charnu pour se transformer en fruit d'une belle couleur rouge vif à la chute des fleurs, et les calices sont récoltés avant qu'ils ne se transforment en fruits, puis séchés pour être utilisés dans la fabrication d'une infusion rouge écarlate.
Et cette infusion porte un nom différent selon les pays, hein.
Exactement, on l'appelle roselle au Kenya, au Botswana, groseille payée en créole dans les Antilles françaises, carcadée en Égypte, où on l'appelait aussi la boisson des pharaons, foléré au Cameroun, carcandji en langue sango du Tchad, de République centrafricaine ou du Congo, bissap en wolof au Sénégal, thé rose d'Abyssinie en Éthiopie, dabouleni en bambara au Mali ou daouleni en Guinée. Alors vous l'avez bien compris, l'oseille de Guinée est cette plante qui nous permet de faire le jus de bissap, une boisson que tout le monde connaît, et il y a des variétés de calice rouge et des variétés de calice blanc pour faire le jus de bissap blanc.
Et on utilise les calices rouges et les calices blancs, mais il faut savoir, chef Anto, que les feuilles d'oseille sont également comestibles, on peut les manger.
Exactement. Vous retrouverez les feuilles d'oseille dans les courbouillons de poissons, de crustacés, où elles apportent un goût légèrement acidulé. Au Congo, au Brazza et Kinshasa, les feuilles servent à la préparation du ngai-ngai, un plat à base de feuilles d'oseille sautées dans de l'huile de palme rouge agrémentée de poissons fumés, de piments et divers aromates. En Côte d'Ivoire, il y a la sauce da, préparée avec de la viande ou du poisson fumé, auquel on ajoute des feuilles d'oseille pilées, de la pâte d'arachide, des tomates et différentes épices. Si vous avez déjà mangé le tiboudien, vous avez sans doute remarqué cette pâte verte acidulée que l'on appelle sauce oseille, composée de feuilles d'oseille, de gombo et de piment, préalablement cuites avant d'être pilées.
Chef Anto, est-ce que les feuilles d'oseille réveillent chez vous des souvenirs d'enfance? Est-ce que les feuilles d'oseille sont votre Madeleine de Proust à vous?
Oui, en fait, à Libreville, quand j'étais enfant, ma mère faisait une sorte de ratatouille à base d'aubergines vertes, légèrement amères, de feuilles d'oseille et de gombo. Des fois, elle y mettait du poisson fumé, des crevettes et d'autres fois de la viande hachée. Et j'en garde un souvenir exquis. Vous l'avez bien compris, les enfants, l'oseille de Guinée est une plante africaine dont nous pouvons être fiers et nous pouvons consommer sans modération sous toutes les formes. En dehors des schémas de cuisson classiques, les calices d'oseille de Guinée peuvent être utilisés pour préparer des sirops, des compotes, des glaces, des confitures, des sauces salées pour accompagner nos plats, des sauces sucrées pour les desserts aussi, comme les crêpes, les gaufres, des entremets. Vous savez quoi? Lors de mon dernier voyage au Sénégal, j'ai découvert même le vin de bissap.
Et qu'est-ce qu'il vous a laissé comme souvenir en bouche, ce vin de bissap du Sénégal?
Incroyable, parce que je ne pouvais pas. Enfin, quand on parle de vin, on pense surtout à du vin avec des raisins. Et là, franchement, le goût est incroyable.
Mais alors, il était blanc ou il était rouge? Tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait
le
faire les
rouge.
Deux.
Il était rouge. Il était fait avec base de bissap rouge, qui avait été fermenté.
Et alors, justement, est-ce qu'il est très alcoolisé, ce vin de bissap?
Non, pas très alcoolisé. Il tirait entre 11 et 12 degrés d'alcool.
Donc ça veut dire qu'on peut en boire combien de verres tout en restant sobre?
Alors l'abus de l'alcool est dangereux à consommer avec modération. Je pense qu'un verre ou deux devrait suffire.
Et vous le recommanderiez avec quel plat, le vin de bissap?
Alors le vin de bissap, sa teneur un peu acidulée, ce serait bien avec tous les plats à base de poisson ou de crustacés, ça se marierait très bien.
Alors, vous n'allez pas terminer cette chronique alléchante à nous abandonner, chef Anto, sans nous confier une recette.
Alors, effectivement, je vous laisse avec cette recette de verrine de tapioca au bissap, qui est facile à réaliser. Pour 4 personnes, il faut 100 g de tapioca, 60 centilitres de lait concentré non sucré. Mettez votre lait à ébullition et faire cuire le tapioca dans le lait sans cesse. Vous mélangez pendant 30 minutes jusqu'à ce que le tapioca soit cuit. Vous le laissez refroidir et à côté, vous réalisez un sirop épais de bissap avec 20 g de fleurs, 50 centilitres d'eau, 50 g de sucre et une cuillère à café d'extrait de vanille. Vous portez le tout à ébullition, vous laissez refroidir. Vous laissez refroidir et après, dans une verrine, vous intercalez des couches de tapioca et de sirop de bissap et vous finissez avec le sirop de bissap et c'est prêt.
Je vais relire peut-être cette recette de verrine au tapioca ou bissap en laissant peut-être à nos auditeurs le temps de noter. Donc, pour 4 personnes, il faut 100 g de tapioca, 60 centilitres de lait concentré non sucré. Donc, on met le lait à ébullition et on fait cuire le tapioca dans le lait sans cesser de mélanger et on fait ça pendant 30 minutes. Lorsque le tapioca est cuit, on laisse refroidir. Ensuite, on fait un sirop épais de bissap avec 20 g de fleurs, 50 centilitres d'eau, 50 g de sucre et une cuillère à café d'extrait de vanille. On porte à ébullition et on fait réduire de moitié. Ensuite, on laisse refroidir. On laisse refroidir combien de temps, chef Anto ?
Jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide, une bonne heure suffit.
Et on laisse refroidir, a priori, au réfrigérateur ?
Au réfrigérateur, exactement.
Alors ensuite, dans une verrine, eh bien, on intercale les couches de tapioca au lait et de bissap et on finit avec le bissap par-dessus. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous donner les proportions pour réaliser un jus de bissap ?
Alors là, pour un litre de bissap, il vous faut à peu près 50 g de fleurs et 100 g de sucre.
Voilà, on n'ajoute pas de citron, pas de gingembre.
Après, c'est comme on veut. Après, on peut rajouter de la vanille, après on peut mettre des feuilles de menthe. Après, c'est comme on aime.
Très bien. Eh bien, vous nous avez donné envie en tout cas. Hein. Merci beaucoup, chef Anto. Bonne journée.
Merci à vous.
À bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Demain, dans 7 milliards de voisins, on continuera à réviser les règles de ponctuation avec l'enseignante Marie-Christine Aubin, comment utiliser les guillemets, les parenthèses, les crochets ou encore les tirets. Nous attendons vos messages, vos suggestions écrits ou audio sur WhatsApp au 33 84 22 71 71. Et puis je vous rappelle ce concours que nous organisons juste pour les enfants sur WhatsApp, concours de dessin. Les gagnants seront tirés au sort dimanche soir et les gagnants eh bien, ils recevront en récompense un compte. Alors vite, à vos crayons ou à vos pinceaux. Et vous pouvez réécouter les comptes en podcast et également les chroniques de Didier Akouété ou encore d'Ibrahima Giroud, le psychologue. Voilà, le psychologue qui fait régulièrement des chroniques pour nous dans l'émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Cécile Lavolo, Sigrid Azéroal, Romain Dubrac en télétravail et ici en studio avec moi à Paris. Donc, je vous rappelle, demain, on a rendez-vous avec votre enseignante, pas préférée parce que vous les aimez tous, mais vous l'aimez vraiment, elle, beaucoup. C'est Marie-Christine Aubin, donc, qui va nous faire plonger dans les subtilités des règles de ponctuation. Et après ça, vous serez incollable. Vous saurez aussi comment placer les points de suspension. Voilà, j'avais oublié les points de suspension dans mon énumération de tout à l'heure avec les guillemets, les parenthèses, les crochets ou encore les tirets. À demain et portez-vous bien.